Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Notre lecture d'introduction est dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 1er. Romains chapitre 4, verset 1er. Voilà, et pendant que vous cherchez, je vous pose cette question. Est-ce que la grâce se manifestait déjà avant que Jésus fût venu? Oui, il y en a qui sont pour. Ce n'est pas une question d'être pour, hein. C'est de savoir tout simplement. La grâce se manifestait-elle avant que Jésus vienne? Romains chapitre 4, l'apôtre Paul va nous apporter quelques éclaircissements. Mais souvenez-vous que David disait « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Donc c'est qu'il avait quand même la pensée que la grâce était déjà là. Mais c'est vrai qu'elle s'est plus particulièrement manifestée. Et les choses s'éclairent, je dirais, en Jésus. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Il y a un éclairage. Mais dans Romains chapitre 4, « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ?» Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Et c'est particulièrement David qui m'intéresse. L'un et l'autre, ce que Paul veut dire, c'est qu'ils ont été sauvés par le moyen de la foi. Il veut aussi que les Juifs comprennent que la grâce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est quelque chose qui était déjà finalement prévu dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Parce que, mes bien-aimés, s'il y a bien un homme qui aurait dû être condamné par la loi, c'est David. Il était condamné par la loi. S'il n'y avait d'accès à la grâce déjà à cette occasion, cet homme, il était condamné pour différentes raisons, mais commettre un meurtre, pardonnez-moi, mais un adultère, un meurtre, le mensonge, enfin, il avait réuni tout ce qui était nécessaire, si je puis dire, mais il n'avait même pas besoin de ça, parce que vous savez comme moi que dans le cadre de la loi, si l'homme transgressait la loi, même s'il ne transgressait qu'un commandement de la loi, imaginons qu'il ne le fasse qu'une seule fois, mais c'est impossible parce que nous sommes tous pécheurs, mais il était perdu. Donc personne ne pouvait être sauvé par le moyen de la loi. Et donc les saints de l'Ancien Testament seraient tous perdus. Et donc je crois qu'ils étaient déjà au bénéfice de ce qui allait venir, c'est-à-dire la grâce qui est en Jésus-Christ, et ils ont exercé la foi, et tant mieux pour eux, sinon effectivement, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez réfléchi un jour à ça. J'ai connu un temps où il y avait tellement de légalistes autour de moi que j'ai un peu glissé dans le légalisme, mais ça pousse à se dire, Seigneur, je suis perdu. Je ne peux pas m'en sortir. Je suis un pécheur, que je le veuille ou non, et s'il n'y a la grâce, je n'ai aucune chance. Mais la grâce se révèle en Jésus-Christ, effectivement, et je dirais s'accomplit en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que la grâce ? Et pour le comprendre, c'est important de rechercher finalement ce qui est ce qui se trouve dans le terme employé, grâce, dans le terme grec, et aussi dans ce qu'il représente à l'époque, parce que vous savez qu'il y a des mots qui évoluent et ça peut changer finalement. Alors, le mot grâce, c'est charis, qui est traduit par grâce et qui signifie en grec beauté. Amen. Générosité. La grâce, c'est la beauté de Dieu. Alléluia. La grâce, c'est la générosité de Dieu. Chez les Grecs, il y a une image de la grâce, c'est quand tu tiens ton ennemi, tu l'as mis à terre, tu as l'épée, tu peux le tuer, et ta grandeur, ta beauté éclate, tu lui laisses la vie. Alléluia. C'est la beauté, c'est la grandeur. Vous comprenez la notion de pardon déjà qui se trouve dans la grâce. La grâce, c'est la beauté de Dieu. C'est la générosité de Dieu. Pour élargir, que nous comprenions bien, on va prendre quelques autres mots grecs qui ont la même racine. Et alors, je ne vais pas forcément peut-être bien prononcer le grec, hein, vous me pardonnerez, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le connaissent. Il y a charizomé qui signifie donner, mais aussi pardonner. Donner, pardonner. On a compris que la grâce, c'est un don. Et que dans la grâce, il y a la dimension du pardon. Amen. Un autre mot, un verbe plus exactement, charito, qui signifie favoriser. Et nous savons que nous avons été comme favorisés en Jésus-Christ. Hein. Dieu nous est favorable grâce à Jésus. Alléluia. Kara, qui signifie joie. La grâce, c'est la beauté, c'est la joie. Alléluia. Kairo, qui signifie se réjouir. Amen. Se réjouir. Et je reviens au grec parce que c'est important de savoir quel est le sens de ce mot. La grâce, c'est finalement voir une chose gracieuse. Ça donne de la joie. Vous admirez quelque chose de beau, ça vous fait quelque chose, ça vous fait du bien. Mais ce n'est pas seulement une chose belle. Vous admirez un geste généreux. Ça fait du bien. Alléluia. Donc, ce qui est beau, gracieux, implique une joie. Je pense que si vous êtes normaux, permettez l'expression, vous éprouvez de la joie à voir des choses belles et que vous éprouvez plutôt du dégoût à voir des choses laides. De beaux gestes, ça donne la joie. Des gestes laids, bon, à moins qu'on fasse partie de ceux qui pratiquent les gestes laids, mais ce qui est beau est agréable à voir. Une personne gracieuse, ça vous fait du bien. À moins que peut-être vous disiez, moi je préfère tel commerçant parce que qu'est-ce qu'il est disgracieux. Il fait la tête, il me répond de travers, j'aime bien aller chez lui. J'aime bien rencontrer la sœur Intel parce qu'elle est disgracieuse au possible. Bon, ça éprouve notre foi, mais bon, je pense que vous préférez aller vers des gens gracieux. Non ? Personne, apparemment. Vous n'aimez pas les gens gracieux ? Quand vous rencontrez une personne qui il y a la grâce, ça respire le bonheur, la paix, ça communique quelque chose de bon, ça vous fait du bien quand même. Alléluia ! Pour le grec, c'est ça, voir quelque chose, quelqu'un, un acte, un geste, un paysage, quelque chose de gracieux, ça implique la joie, ça donne la joie. Et la grâce de Dieu, il me semble que ça devrait impliquer, ça devrait produire en nous la joie. Dire, Seigneur, mais quelle joie, quel bien-être, quel bonheur de voir que mon Dieu est un Dieu si merveilleux, si aimant, si glorieux. Alléluia. Amen. Et peut-être une question donc, que je vais me poser et que l'on va se poser, est-ce que nous sommes beaux à voir? Je ne vous parle pas du physique. Hein, mais justement, est-ce que la grâce ressort de nous quand les gens nous voient et disent « ça fait du bien » ? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens, vous n'avez pas forcément envie de les rencontrer. Mais si ce sont des chrétiens, c'est plus embarrassant. Moi, ça m'est arrivé de voir des chrétiens qui sont pénibles hein, au travers de ce qu'ils disent, etc., sans cesse critiques, sans cesse... Ah, il y a parfois des ordures, permettez, mais je vais être dur peut-être, mais des ordures qui sortent de leur bouche au travers des méchancetés qu'ils ont à proférer. Moi, je trouve pas ça très beau. Hein. Je trouve ça plutôt laid. Et un chrétien, ça doit être quelqu'un qui procure du bonheur, du bien-être. Alléluia! Il faut qu'il y ait la joie pour celui qui nous côtoie. Amen! Pensez maintenant, là, un instant, à une personne gracieuse. Je suis sûr que ça va. Ah oui, c'est vrai, cette personne me fait du bien. Hein. Alléluia! Donc, on comprend que la grâce, c'est la beauté de Dieu. C'est le pardon de Dieu. C'est l'amour de Dieu, tout simplement. C'est sa grandeur. Alléluia! Et finalement, nous sommes au bénéfice de la grâce. Nous comprenons que nous avons été favorisés en Jésus-Christ, mais que nous n'avions rien mérité. Mais, voyez-vous, finalement, si nous sommes au bénéfice de la grâce, il y a des choses qui sont aussi accordées à l'Église, non seulement le salut, mais les dons. Les dons sont des charismes. Ce sont des dons de la grâce, ça vient de ce même mot, charisme, cari. Pas le cari poulet, hein. Charis, voilà. Les charismes. Dieu a donné à l'Église, il a donné les ministères. Il faut qu'il y ait dans l'Église les différents ministères, les différents diaconats. et puis aussi les dons spirituels, ceux qui sont énumérés par l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens. Ce sont des dons spirituels, ce sont des dons, ce sont des charismes. Et j'ai envie de dire que si nous avons reçu la grâce de Dieu, on a reçu, permettez un peu la façon de le dire, le packaging. On a reçu tout ça, normalement, c'est à disposition de l'Église. Alléluia! Alors, vous les connaissez, les dons spirituels qui sont énumérés par l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens. Il y a des dons d'inspiration, des dons de révélation et puis des dons de puissance. Allez, donnez-moi les noms de ces dons. La quoi? Fort, fort. La prophétie. La parole de sagesse. La parole de connaissance. Voilà. Des actes de puissance. La foi, une foi extraordinaire. Les guérisons. Les miracles. Le parler en langue. Oh, on ne l'entend plus beaucoup pratiquer dans nos églises. En tout cas, ici, je trouve qu'il va falloir renouveler ça. Il faut que certains retrouvent ça. Alors, il peut y avoir la peur des abus aussi. Mais il vaut mieux qu'il y ait trop et qu'on puisse ensuite dire, voilà, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Avec l'interprétation des langues. Alléluia! Ça a été donné à l'Église. Amen! Et le discernement des esprits. Et je pense que l'Église a bien besoin d'exercer aussi ce don-là, parce que des esprits, il y en a pas mal, y compris parmi des gens qui se déclarent venant de Dieu. Je le redis souvent, mais faites attention à tout ce qui circule. Toutes ces fausses prophéties, tous ces gens qui se prétendent remplis du Saint-Esprit, oh là 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 là! Mais la Bible nous a été donnée pour qu'on puisse discerner, mais on a besoin d'un don de discernement. On sait que Paul, à un moment donné, a dû exercer ce don de discernement pour savoir à qui il avait affaire. On a besoin de savoir à qui on a affaire. Il faut que l'Église exerce ses dons parce qu'elles lui sont données. Les charismes, ça fait partie de la grâce, donc nous devons exercer ces choses. Alors après, je pourrais en parler, mais effectivement, les ministères dons, les pasteurs, les prophètes, etc., et puis toutes sortes de diaconats qui sont nécessaires à l'Église et qu'il faut exercer dans l'Église. Moi, j'aime, ce n'est pas arrivé souvent, mais quand il y a un chant en langue, avec son interprétation après, c'est arrivé si rarement qu'à chaque fois, j'ai la chair de poule. Il ne faut pas qu'on éteigne l'esprit. Il faut qu'on permette à l'esprit de se manifester. Amen. Il faut rechercher cela. Alléluia. Alléluia. Et vous ne croyez pas qu'en ce temps, on a besoin des dons de puissance? Non pas pour notre propre ego, hein, mais pour manifester la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, le mot charis, en grec, signifie également gratitude, reconnaissance, action de grâce. Et donc, j'ai envie de dire que dans ce mot, il est question à la fois de la générosité de celui qui est généreux, justement, qui accorde sa générosité, qui accorde ses bienfaits, et il y a aussi, finalement, l'acte de reconnaissance de celui qui reçoit. Alléluia! Et l'Église est appelée à être reconnaissante. Ça m'arrive de vous le dire, mais notamment, bien sûr, reconnaissante à l'égard de Dieu, premièrement. Alléluia! Reconnaissante pour le salut, mais reconnaissante justement aussi pour les dons, pour les charismes, pour tout ce qui peut être exercé dans l'Église. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, au bout d'un moment, vous n'avez pas trop envie de lui donner. Vous êtes d'accord? Vous allez dire, puisqu'il n'est pas très reconnaissant, je vais limiter un petit peu, on va voir. Il se peut que Dieu soit amené à faire ça en disant, ils ne sont pas du tout reconnaissants, ce n'est pas la peine. Soyons reconnaissants. Alléluia! Et ça devrait déjà susciter beaucoup d'enthousiasme dans l'Église, d'empressement pour dire, je viens faire acte de reconnaissance à l'égard de celui qui m'a racheté. Dans ce que nous avons lu, nous avons vu qu'il est question d'un salaire. Le salaire, c'est quelque chose qui est dû. Alors peut-être parfois, on va dire, le salaire correspond bien à ce que j'ai fait. Peut-être quelqu'un d'autre dira, moi, je suis sous-payé. Mais justement, on comprend qu'il y a la notion de quelque chose qui est dû. Mais la grâce, c'est un don. Ce n'est pas en fonction de ce que nous aurions mérité. Abraham n'a rien mérité. David n'a surtout rien mérité. Ça, on en est encore plus certain. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas mérité. Parfois, on peut avoir un cadeau et se dire, Oui, mais c'est un peu la contrepartie justement de ma grâce. Je suis tellement gentil, je suis tellement bien. Ou de ce que j'ai pu faire. Mais permettez-moi, ça peut arriver effectivement que le don qui nous est accordé soit comme une sorte de reconnaissance et qu'on puisse se dire c'est un petit peu normal. Mais quant à la grâce de Dieu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui oserait dire, moi je ne dirais sûrement pas que j'ai mérité quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la grâce. C'est quelque chose d'immérité. C'est justement la grandeur de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... On ne peut même pas comprendre suffisamment, finalement. Mais on doit s'en réjouir et on doit apprécier cela. Alléluia. C'est profondément immérité, mais ça nous est accordé. Et la conséquence normale, c'est la reconnaissance. Alléluia. C'est la reconnaissance à l'égard de Dieu. Alléluia. Et je crois que, justement, si on a compris la grâce... Même si Dieu nous utilise, que ce soit dans les manifestations spirituelles de la lettre aux Corinthiens, que ce soit dans les diaconats, que ce soit dans les services, dans les ministères, il n'y a pas de raison de s'enorgueillir parce que ça reste don de la grâce. C'est immérité, quand bien même je pourrais dire, voilà, j'exerce ça, mais j'avais déjà un peu de talent personnel. Hein, et que non, parce qu'il y a des gens qui ont un talent naturel, mais qui ne pourront jamais l'exercer pour Dieu, pour différentes raisons. Et quand bien même, je disais, j'ai un talent naturel, je suis convaincu que c'est Dieu qui me l'a accordé. Parce qu'il avait prévu que je puisse le mettre à disposition de l'Église. David était un berger. Remarquez, aux yeux de beaucoup, on devait se dire, ça, ce n'est pas un métier tellement extraordinaire. Hein. Mais Dieu le préparait à être un grand berger. Alléluia! Alors, il avait comme un don naturel qu'il a pu ensuite mettre en œuvre, mais avec l'action du Saint-Esprit, mais encore une fois, par la grâce. Alléluia! Mais si tu as un don et que tu le gardes pour toi, tu crois que c'est ça la reconnaissance? Il y a des chrétiens dans l'Église, ils ont certainement reçu quelque chose, mais ils ne le mettront jamais en œuvre. C'est dommage. Ça veut dire que le don de Dieu, oh Seigneur, garde-le. Ou un peu comme chantait Pierre Lachat, en disant, oh, il y a tel problème, Seigneur, lève quelqu'un. Mais surtout pas moi. Vous savez, parfois, on prie, Seigneur, Lève des ouvriers, et ça se trouve, c'est toi, ou en tout cas, c'est au milieu de nous. Mais Émile, quand il a prié, il aurait pu dire, je suis très bien là où je suis, enfin, il l'aurait peut-être pas dit, mais il aurait dit, lève quelqu'un là-bas. Non, au bout d'un moment, il a compris que c'était lui qui devait se lever. Alléluia! Et la reconnaissance, eh bien, effectivement, c'est de savoir discerner ce que Dieu nous a donné, parce qu'on peut se tromper aussi et vouloir exercer ce que Dieu nous a pas donné, mais reconnaître ce que Dieu nous a donné et le mettre en pratique et le mettre en œuvre. Alléluia! Et dans la grâce, il n'y a donc pas de place à l'orgueil. D'ailleurs, l'orgueil précède la ruine, la chute, oui. Alors, on va lire le psaume 32, puisque ce passage y fait référence, le psaume 32. Le psaume 32. De David, psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part, afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Et après, c'est le psaume 33 que nous avons lu déjà. En commençant la réunion. Voilà, David qui reconnaît effectivement la grâce de Dieu et qui dit une chose importante. Tant que je me suis tu, tant qu'il n'a pas voulu reconnaître ses fautes, tant qu'il n'a pas voulu reconnaître ses erreurs, tant qu'il n'a pas voulu les confesser à Dieu, ça allait de mal en pis. Et ça n'est que quand il a accepté de reconnaître ces choses et de les confesser que les choses ont changé. Alors à la fois, il faut avoir confiance dans la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire au travers de ça, c'est que parfois des gens veulent taire les choses, veulent les cacher, par la crainte du jugement sans doute, peut-être le jugement des hommes. Mais je sais une chose, c'est qu'il vaut mieux avouer ces transgressions et décider évidemment de changer. Alléluia. Et David ne peut expérimenter ce qu'il dit ici au sujet des justes que parce que, alors qu'il était injuste, puisqu'il avait commis de graves péchés, et pendant longtemps il a cherché à cacher. Mais quand il a accepté de reconnaître ses fautes et de se repentir, il s'est relevé parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur la grâce extraordinaire de Dieu. Alléluia. Il y a certainement des gens qui ont besoin, plutôt que de cacher, d'avouer, de confesser, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alléluia. Confesser ses fautes est une chose qui est extrêmement importante. Le plus souvent, ce sera devant Dieu. Parfois, il faudra un témoin. Il y a des situations qui le nécessitent. Mais je sais qu'il y a une grande délivrance. David expérimente le pardon de Dieu et retrouve la joie du Seigneur, parce qu'il retrouve la joie. Alléluia. Amen. Alors, la grâce encourage-t-elle au péché? Ben non. Enfin bon, j'ai connu quelqu'un qui avait peur. Justement, il était un peu légaliste parce qu'il avait peur de la grâce. Il croyait que la grâce pouvait en venir finalement à autoriser, à faire toutes sortes de sottises, de folies, etc. Et béni soit Dieu, il a sombré à tel point qu'à un moment donné, il ne pouvait se relever que par la grâce. Il m'était venu à dire, voilà, je ne suis pas bien, aux yeux de Dieu, je faute, etc. Même en essayant d'être le plus extraordinaire, le plus droit possible. Et c'est la grâce qui l'a relevé. Mais la grâce n'encourage pas au péché, n'ayez pas peur. On va lire Tite 2. Tite 2, un passage qui a déjà été lu, mais voilà qu'on peut reprendre tout de même. Tite chapitre 2. Verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11. Il est moins facile à trouver. Ce n'est pas qu'il est petit, Tite, mais c'est son écrit qui est petit, ou qui est court, on va dire. Alors, on a plus de mal à les trouver cela. Hein. Mais plus vous allez lire la Bible, plus vous allez être habitué à trouver les passages. Alléluia. Voilà, certains ont dit que la période de confinement les avait amenés à retrouver la Bible. Alors ne la perdez plus. Hein. Et lisez-la. Chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes. Donc elle nous enseigne à renoncer au péché et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc la grâce nous enseigne à renoncer au péché et elle nous enseigne à vivre dans la piété. Et c'est logique. On revient à ce que j'ai dit. Si on a compris ce qu'est la grâce de Dieu, si on a cette reconnaissance à l'égard de Dieu, si on a compris aussi le coût, le sacrifice de Jésus, on a envie d'être agréable à Dieu, on a envie de marcher selon les préceptes de Dieu et on a même compris qu'ils ont été édictés pour notre bien. Alléluia! Donc le chrétien, évidemment, ne va pas courir derrière le péché s'il a compris la grâce. Mais au contraire, il va renoncer au péché. Amen! L'apôtre Paul pose une question aux Galates, chapitre 2, verset 17. Christ serait-il ministre du péché? Pour ceux qui craignent, qu'ils disent, si les gens sont sous la grâce, ils vont faire n'importe quoi. Mais la question, est-ce que Jésus est ministre du péché? Et l'apôtre Paul, évidemment, dit, loin de là. Jésus ne nous encouragera jamais au péché. Lui qui sait le prix, les conséquences du péché, le prix qu'il a dû payer. Alléluia. C'est bon, bien sûr, il faut être vraiment sous la grâce, parce qu'il y a des gens qui abusent de la grâce et qui font n'importe quoi. Mais celui qui a compris la grâce, il s'applique à vivre selon les conseils de Dieu. Et il sait qu'il lui arrivera de commettre des fautes qu'il n'en commet. Mais il sait qu'il a un avocat auprès du Père. Et il va reconnaître ses fautes, il va confesser ses fautes, et il va, avec la grâce de Dieu, décider de ne pas les commettre à nouveau. Alléluia! Amen! Il sera relevé par la grâce. Alléluia! La grâce, c'est la beauté. Et vous croyez que quelqu'un qui pêche, c'est beau? Aux yeux du monde, oui. Hein. Le monde aujourd'hui qualifie de beau, ce qui est parfois très très laid, mais bon, ça c'est le monde, mais le chrétien. Si vous voyez un chrétien, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voyez un chrétien qui se comporte mal, c'est pas beau. Hein. Il parle mal, pas beau. Hein. Vous êtes d'accord? Le chrétien doit refléter la beauté de Dieu dans ses actes, dans ses paroles, je vais même vous dire dans ses vêtements. Un jour, une dame me dit, non par rapport à cette église, elle pensait que voilà, une autre église était l'identique de celle-ci, mais c'est une autre église évangélique auprès de laquelle elle habite. Et elle me dit, j'ai remarqué une chose, les gens sont bien habillés. Ça m'a touché parce que je me suis dit, c'est un signe et ça lui paraît comme quelque chose de respectueux qui ailleurs n'existe plus et parfois même dans le monde lutte contre ça en disant, on ne veut plus de ce conformisme, on ne veut plus toutes ces choses. Alors vous savez, dans la mode, faites attention parce que la mode, elle fait passer des messages. Et oui, anticonventionnel. Voilà, on veut s'opposer à tout ce qui représente l'ordre. Et vous avez des vêtements aujourd'hui, c'est du désordre. C'est vrai ? La tenue vestimentaire elle-même est révélatrice. Oh, il y a des gens qui diront c'est le cœur, mais j'ai déjà dit, j'ai déjà parlé de ces quatre hommes qui s'étaient convertis dans une église du Grand Est, comme on dit aujourd'hui. Quatre loubards, des drogués, cheveux longs, enfin, vous imaginez la tenue de l'époque, et puis les clébards aussi avec eux. Quand tu venais à l'église, il y a des gens qui ont été un peu froissés. Le pasteur a tenu. Et ces gens sont venus au Seigneur. Et ensuite, ils ont dit, voilà, on va changer. Évidemment, on change tout. Même les cheveux longs, c'est pas bien. La Bible dit que c'est pas bien, donc on se coupe les cheveux. Il y en a un qui dit, mais non, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le cœur. Il y en a trois qui sont devenus pasteurs, serviteurs de Dieu. Les trois qui sont allés jusqu'au bout de dire, voilà, tout ça, c'est important. Ce que dit la Bible, c'est important. Alléluia. Et il n'y a rien à négliger. Amen. Et ils avaient connu, et l'un de ses frères, qui va souvent maintenant en Inde, parce qu'il travaille pour l'action missionnaire en Inde, il dit, quand je survole au-dessus de Katmandou, je me rappelle que dans le temps, ce qui m'intéressait, c'était les drogues. Mais Dieu l'a libéré. Est-ce que vous croyez que Dieu libère encore des drogues? Eh oui! On revient peut-être au don spirituel, au charisme, mais il faut qu'il y ait ces choses dans les églises. Le Seigneur délivre, le Seigneur libère, et les gens, ils changent et ils sont transformés. Amen. Alléluia. Alors la grâce, elle reflète la beauté de Dieu. Cette beauté que nous devons refléter à notre tour. Elle reflète la grandeur de Dieu. Et dans la beauté de Dieu, il y a une chose étonnante, remarquable, qui finalement, bien sûr, est comme un peu la colonne de tout ça. Et ça va avec l'amour, c'est l'amour qui domine. Mais le pardon. Je reviens à mon grec. Hein ? Il a fait tomber son adversaire, l'adversaire est à terre, il n'a plus qu'à lui trancher la tête ou lui enfoncer l'épée. Et voilà que cet homme dit, je te laisse la vie, tu es mon ennemi, je te laisse la vie. Je peux supposer que celui à qui on laisse la vie, ça va le marquer. Hein. Marqué comme les hommes sont les hommes, peut-être qu'après il se relèvera pour poignarder par derrière. Ça c'est l'humain, c'est pas le chrétien. Mais c'est la beauté, le pardon de Dieu. Je pense qu'on a besoin tous de mesurer à quel point, non seulement nous étions loin du pardon, indignes du pardon, la mesure de ce qu'il faut nous pardonner, parce que ce n'est pas seulement ce qui nous a été pardonné, c'est ce qu'il faut encore nous pardonner. Mais justement, je reviens à nous, si nous avons compris le pardon de Dieu, nous devons manifester le pardon. Ça fait partie de la beauté, savoir pardonner. Oh, Pierre pose une question audacieuse. Seigneur, jusqu'à 7 fois, ça fait quand même, c'est un chiffre complet, ça, 7, c'est pas mal. Hein. Le Seigneur est dérangeant. Plus que ça, mon frère. Pourtant, je ne te dis pas, 7 fois avec cette personne-là, c'est chaud. Hein. Alors, plaise à Dieu que ça n'arrive pas 77 fois dans la journée. Mais c'est pour comprendre que, évidemment, ce n'est pas si évident, ce n'est pas si simple, mais que ça fait partie de la beauté de Dieu. Il y a des églises qui sont laminées parfois par les conflits, toutes sortes de choses. C'est laid. Et parfois, quand vous voyez les raisons, c'est petit, c'est misérable. Mais une église qui vit dans la grâce, alléluia, c'est autre chose. Et la grâce, elle se manifeste et les gens sont bien ensemble. Et pas seulement eux, mais ceux qui entrent, ils se sentent bien aussi. Alléluia, alléluia, amen. Et sans doute pour certains qui viennent, il y a des changements qui vont devoir s'opérer. Mais nous-mêmes, la première fois où nous sommes entrés dans l'église, nous n'en étions peut-être pas conscients, mais il y avait beaucoup de choses à changer en nous. Hein. Et puis nous avons toujours des progrès à faire. Savoir pardonner. Alléluia. Le vrai chrétien doit savoir aimer, puisqu'on a compris que la beauté de Dieu, c'est son amour, qui se manifeste dans sa générosité, qui se manifeste dans ce pardon presque inexplicable, tellement on en mesure, on pourrait presque... Vous savez, parfois, les gens trouvent que Dieu use de trop de patience. Ben heureusement, hein, parce que nous serions perdus. Et ça nous dépasse, un amour comme ça, un pardon comme ça. Mais Dieu nous l'a accordé. Soyons reconnaissants. Alléluia. Sachons pardonner en retour. Amen. Amen. Sachons être reconnaissants en retour aussi par rapport à Dieu, mais vis-à-vis aussi de tous ceux qui nous ont fait du bien. Alléluia. Sachons aimer. Et puisque Dieu est généreux, soyons généreux. Amen. Une église généreuse, c'est une église qui sera bénie. Au fond, tel nous serons, tel Dieu sera. Non pas que Dieu soit limité, mais au fond, d'une certaine manière, il va faire selon ce qu'on va bien vouloir faire. Mais si nous entrons dans la dimension de la grâce de Dieu, on va être surpris. Parce que justement, elle est tellement grande. L'apôtre Paul parle de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, de l'amour de Dieu. Et je pense qu'on n'en connaît que si peu. Certainement que s'il y avait quelque chose pour mesurer, Dieu, le Seigneur nous dirait, mais t'en es là. Alors que ça monte, oh! Mais il y a tellement de choses, et pas seulement pour nous, parce qu'on ne veut pas être des égoïstes, mais pour l'Église, pour ceux qui sont autour de nous, il y a tellement de choses. La grâce de Dieu veut surabonder. Il en est question qu'elle surabonde, mais voilà, il faut que nous-mêmes, qui connaissons la grâce, la connaissions mieux certainement, grandissions dans la grâce, et puissions l'aider à se répandre au travers de nous. Amen. Alors suis-je beau? Enfin, chacun se pose cette question aux yeux de Dieu. Vous savez, quand Moïse a vu l'enfant, il l'a trouvé beau, vous allez dire... Les parents, ils trouvent toujours leur enfant beau. Mais c'est d'une autre beauté qu'il était question. Pas seulement qu'il était beau physiquement. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose, le sceau de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui devrait se voir, finalement. Ce sceau de Dieu, cette approbation de Dieu, cette beauté de Dieu sur l'Église, sur les frères, sur les sœurs. Alléluia. La beauté. On revient pour terminer. Voilà, donc la grâce qui nous parle de beauté, de générosité, de faveur, de don, de pardon, de joie. Alléluia. De gratitude aussi, de reconnaissance. Et la grâce pousse à l'action de grâce. Alors, elle s'est vraiment manifestée en Jésus, bien sûr. Elle agissait déjà. Et certains l'avaient compris. David est un homme inspiré. Mais... puisqu'il y avait la loi, évidemment, la loi était là pour un temps, donc ce n'était qu'après que pouvait se révéler la grâce. Mais au fond, quelque part, il faut la loi, et l'échec, non pas de la loi, mais de l'homme par rapport à la loi, pour dire je n'ai plus qu'une solution, il faut que je trouve la grâce et que je me réfugie dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Et une fois qu'on a trouvé la grâce, on ne va pas faire comme les Galates, on ne va pas en sortir, sinon on serait déchus. Mais on dit j'y suis bien. Mais je veux en être digne. Alléluia. Je veux être gracieux. Je veux être gracieuse. Alléluia. C'est sérieux, hein? On le dit avec le sourire pour peut-être aider à bien s'imprégner de ces choses. Mais encore une fois, pensez à cela. Pensez à des gens gracieux qui vous font du bien et dites, j'ai envie d'être comme ça aussi. Alléluia. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Afin que justement, ça a été rappelé que nous portions les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que nous puissions, Seigneur, manifester ces choses, que nous soyons des reflets de la beauté, de la grandeur de Dieu. Et Seigneur, que nous sachions aussi être reconnaissants, parce que nous pouvons en venir finalement à être fiers de ce que nous sommes. Nous pouvons même en venir à nous vanter de nos, ou à nous satisfaire de nos dons, oubliant que, Seigneur, ces dons, c'est toi qui nous les accordes, et que certainement nous les exerçons en partie seulement et bien imparfaitement. Nous voulons reconnaître notre petitesse, mais en même temps, comme David, pouvoir dire justement, nous voulons nous réjouir en Dieu, parce que la grâce de Dieu demeure, et que si même ce matin je constatais des carences dans ma vie, un échec peut-être à certains égards, je sais une chose avec mes bien-aimés, c'est que je peux me relever avec la grâce. Et je peux prendre une nouvelle décision, un nouveau chemin, une nouvelle direction. Peut-être pour quelqu'un de venir à Jésus. Peut-être quelqu'un qui a jugé l'évangile comme étant finalement règle sur règle, des choses qui peuvent paraître justement inintéressantes. Mais aide cette personne à comprendre la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Fais grâce, mon Dieu. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour les bien-aimés. Merci pour l'Église. Et je te bénis pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont acteurs dans l'Église et dont nous pouvons profiter finalement du ministère ou de ce qu'ils font. Seigneur, merci pour cela. Aide-nous à renouer avec les dons spirituels, Seigneur, à peut-être prier pour cela justement, afin que l'Église ne soit justement bien équipée ou mette en œuvre tout ce que tu lui as donné, parce que c'est là finalement, c'est à notre disposition. Amen. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu.